Les séminaires du Collège de France.
Merci beaucoup à Françoise de m'avoir proposé de faire ce séminaire après son cours. Elle a donné une superbe introduction au sujet. Donc, je reprends là où elle s'est arrêtée, c'est-à-dire aux proto-étoiles et les flots bipolaires dont elle a évoqué l'existence. Elle vous a montré cette belle image. Donc, nous allons... je vais essayer de vous faire parcourir un petit peu ce qu'on sait sur ce phénomène d'éjection bipolaire, qui finalement était un phénomène pas du tout anticipé au départ. Quand on pensait à la formation d'une étoile, on pensait juste à l'effondrement d'un cœur qui allait former une étoile au centre. On faisait des modèles sphériques, très simples, et puis voilà, la matière tombe, ça forme une étoile, et voilà. Et en fait, les premières proto-étoiles, les toutes premières, donc plus jeunes que les Tétori, on les a découvertes grâce à ces éjections de matière. On les a découvertes en CO. Donc, je vous rappelle d'abord les échelles. On va parcourir une grande gamme d'échelles de taille dans ce séminaire. Oui, Françoise vous a montré cette image, elle vous a donné l'échelle qui est de l'ordre d'un dixième de parsec. Et en fait, pour arriver à l'échelle du disque, déjà vous voyez que la matière doit tomber de 10 000 AU à quelques centaines d'unités astronomiques. Et ensuite, pour tomber sur l'étoile, qui ne fait que quelques rayons stellaires, rayons solaires, il faut encore gagner un facteur 10 000. Donc en gros, il faut parcourir... 1 million, rétrécir les tailles par un facteur 1 million, plus d'un million, et vous allez voir que c'est pas simple. Et c'est également, on peut aussi s'étonner qu'un objet aussi petit au centre puisse produire quelque chose d'aussi grand. Et là encore, c'est que la base, en fait, ces flots, on les trace, je vais vous montrer, jusqu'à des parsecs, hein, donc 10 fois plus que ça. Et en fait, la clé de ça, c'est que l'énergie potentielle, c'est en 1 sur R. C'est GM sur R. Donc, plus vous êtes à petite échelle, plus vous avez de la puissance, en fait. Plus vous dégagez, pour tomber, vous dégagez de plus en plus d'énergie. Donc, c'est un peu ça le secret. Le plan du séminaire, c'est... D'abord, je vais rappeler le problème de l'inefficacité de formation stellaire dont Françoise vous a parlé. Le problème du moment cinétique, qui, dès qu'on met de la rotation, en fait, l'effondrement, c'est plus si simple... et les phénomènes d'éjection, donc je vais vous parler de trois phénomènes et comment ils peuvent être la solution que la nature a trouvée pour résoudre ces deux problèmes. Donc il y aura trois phénomènes d'éjection, les flots bipolaires, les jets et les vents de disque. Et ensuite je conclurai. Donc ici c'est la slide de Françoise que j'ai un petit peu modifiée. Donc elle vous a montré que l'efficacité de formation d'étoiles qu'on mesure dans les nuages denses, c'est seulement quelques pourcents. Que 3 à 6 % de la masse du nuage qui se transforme en étoile. Et si on va dans les cœurs préstellaires, c'est-à-dire les petits nodules massifs dont on sait qu'ils sont sur le point de s'effondrer pour former une étoile, donc c'est vraiment l'unité la plus petite qu'on trouve dans un nuage avant l'effondrement, et qui ont des masses proches de masse stellaire, en fait, quand on compare la masse de ces cœurs, qui est la distribution en bleu ici, avec l'IMF, donc la loi de la distribution en masse des étoiles, on voit que c'est décalé. C'est-à-dire que l'IMF pique à 0,1, 0,2 masse solaire, et ces cœurs suivent la même loi, la même pente, mais décalés. Décalés d'un facteur 3 ou 4. Donc c'est le fameux 25%, c'est-à-dire qu'un cœur préstellaire... Quand il va s'effondrer pour former une étoile, ben finalement, il n'y a qu'un quart ou un tiers de cette masse qui va finir dans l'étoile et le reste est visiblement expulsé. Mais alors comment? C'est justement toute la question. Et puis l'autre problème, c'est le problème du moment cinétique. En fait, donc la force de gravité, vous savez que c'est en 1 sur la distance au carré. Et vous connaissez peut-être la force centrifuge. Vous l'expérimentez régulièrement quand vous êtes dans une voiture qui tourne, vous sentez que vous êtes plaqué vers l'extérieur. C'est une force qui est dans le référentiel, qui se sent dans le référentiel tournant. Et elle s'écrit comme ça. Et en fait, il y a une quantité qui doit être conservée s'il n'y a pas une force qui vous freine, s'il n'y a pas d'autre force, le moment cinétique, qui est le produit de la vitesse de rotation et du rayon. Pour un objet de max fixé. Et vous savez tous l'expérience de la patineuse qui démontre cette conservation, c'est que quand elle est avec les bras tendus, le R il est très grand, et quand elle ferme ses bras, le R il diminue, ben, la vitesse de rotation augmente. C'est pour conserver ce moment cinétique. Mais il va se passer la même chose quand le cœur s'effondre, s'il est en rotation et qu'il conserve son moment cinétique, la force centrifuge, du coup, si vous combinez ces deux équations, elle va augmenter en 1 sur R cube. Donc au fur et à mesure qu'il se rapproche du centre, cette force centrifuge va augmenter énormément. Bon, la force, du coup, il va y avoir un moment où cette force centrifuge va devenir égale à la force de gravité. Et c'est un certain rayon qu'on appelle le rayon centrifuge. En gros, quand la matière va arriver à ce rayon-là, ben, elle ne pourra plus accréter sur l'étoile. La force de centrifuge va complètement compenser la gravité. Donc si on fait, alors après ça dépend de J évidemment, si on fait des hypothèses sur le cœur initial, on a l'impression qu'ils sont en rotation avec un certain moment cinétique. Au fur et à mesure de l'effondrement, bah, c'est du matériau qui vient de plus en plus loin, donc qui tourne de plus en plus, qui a un moment cinétique initial de plus en plus grand, et on prédit que ce rayon centrifuge, bon, au début il est petit, on forme une étoile, mais petit à petit il devient de l'ordre de 50 unités astronomiques, ça forme un disque. C'est pour ça qu'il y a un disque qui se forme. Mais alors du coup, le matériau qui est dans ce disque, comment on fait pour le faire tomber sur l'étoile? Parce que sinon, il y a très peu de masse au cœur dans l'étoile, on forme un disque et ça s'arrête là. Donc il y a beaucoup de questionnements qui s'est passé là-dessus, et je ne vais pas rentrer dans la théorie tout de suite, je vais d'abord vous rappeler que, bah, en fait, les étoiles, elles éjectent de la matière. Les étoiles jeunes et même les proto-étoiles les plus jeunes, depuis les proto-étoiles les plus jeunes jusqu'aux étoiles Tétori, elles éjectent de la matière. Donc ça, ce sont deux images du JWST qui montrent à quel point c'est un phénomène puissant, très, très spectaculaire, très étendu, mais qui provient de l'étoile, la proto-étoile qui est au centre. Ici, on ne la voit même pas, on ne voit même pas son disque. Donc, je vais vous montrer en quoi ce phénomène peut nous aider. Donc, d'abord, il y a trois types de signatures d'éjection que je vais décrire à la suite. Il y a ce qu'on appelle les flots moléculaires. Je les appelle les flots CO parce qu'on les voit surtout dans la molécule de CO pour la raison que Françoise vous a donnée, qui est la molécule la plus abondante après H2 et qui rayonne facilement aux températures du gaz. Donc, ce sont des grandes coquilles comme ça, très lentes, avec de la matière à moins de 10 km par seconde. Il y a les jets de plasma qui sont beaucoup plus fins, qui est ici en rose, et qui vont, eux, à des centaines de kilomètres par seconde. Et enfin, il y a des signatures qui ressemblent à des vents de disque, de matière qui viendrait du disque lui-même. C'est encore débattu et c'est vraiment un sujet de recherche très actuel. Donc, les flots bipolaires découverts par effet Doppler dans la molécule CO. Quand les gens ont commencé à cartographier les nuages, dans certaines régions, ils se sont aperçus qu'il y avait des zones qui étaient systématiquement décalées vers le rouge, d'autres systématiquement décalées vers le bleu, et qu'elles pointaient, en plus c'était allongé, c'était pas comme un mouvement turbulent, c'était pas de l'effondrement non plus, parce que c'était trop rapide en vitesse par rapport à la masse qu'il y avait à l'intérieur. Donc c'était de la matière qui était pas lié gravitationnellement. Donc ils ont dû se dire, ah ben, ça sort, c'est de l'outflow. Donc c'est des vitesses, c'est du gaz froid. Et avec ALMA, ici, on voit même la structure détaillée de ces flots. Maintenant, avec les interféromètres, on voit qu'ils sont creux et ils sont massifs. Et donc, on s'est dit que ça devait être de la matière ambiante qui est entraînée, qui est poussée dans une coquille par un vent protostellaire qu'on ne voit pas en CO, mais assez collimaté et qui pousse le milieu ambiant pour créer ces coquilles. Et ces flots, donc, ils sont, quand on regarde un amas, ils sont en fait très nombreux et très étendus, puisque c'est une activité qui dure assez longtemps pendant la vie de l'étoile, pendant toute la phase protostellaire en tout cas. On voit qu'ils peuvent être, ici c'est un amas dans le serpent, vous voyez qu'il y en a dans tous les sens en fait, ils sont très grands, vous voyez la taille ici, c'est des fractions de parsec ou des parsecs. Et si on additionne toute l'impulsion qui est déposée par ces coquilles, si on se dit bon ok, ces coquilles elles vont se propager, elles vont interagir avec le nuage, elles vont être freinées petit à petit, elles vont déposer toute leur quantité de mouvement dans le gaz ambiant, ben en fait on trouve un taux de déposition qui est de l'ordre du taux de dissipation de la turbulence. Donc ça veut dire que ces flots pourraient contribuer de façon importante à réguler la formation des étoiles à l'échelle des nuages et des nuages denses et des amas, Et c'est ce qui est confirmé. Alors voilà une autre image, ça c'était Spitzer, l'ancêtre de GWST, si on peut dire. Un autre amas de formation d'étoiles où là les flots sont tracés en hydrogène moléculaire. Vous voyez tout ce qui est vert, là, tous les filaments verts, c'est des flots. Il y en a partout, c'est entrecroisé dans tous les sens. Et donc les simulations numériques confirment que si on intègre dans les simulations de nuages magnétisés turbulents les flots, le phénomène d'éjection, on réduit effectivement le nombre et la masse des étoiles qui sont formées. Donc là c'est sans les flots et là c'est avec les flots. Alors vous voyez qu'il y a moins d'étoiles et elles sont moins massives en fait. Et c'est un meilleur accord avec ce qui est observé. Une question qui reste ouverte, et on va y revenir tout à l'heure, c'est on ne sait pas très bien ce qui les accélère, puisque là, avec le CO, ben, on ne peut pas savoir, mais on pense qu'il y a, donc, il y a deux modèles concurrents, soit c'est juste un jet variable qui fait des chocs d'étrave dans le milieu ambiant, soit c'est une sorte de vent, de vent plus ouvert, un vent X dont je vais parler aussi plus tard, et pour l'instant, ce n'est pas encore tranché. Donc on va aller vers les jets en tout cas. Pourquoi un jet? Ben, on les voit. Donc les jets, ça a été découvert un peu après les flots CO. Les flots CO, c'était donc à l'époque de la radioastronomie. Les jets, pour les voir, il a fallu attendre l'invention du CCD parce que ce sont des régions assez peu lumineuses en fait par rapport à l'étoile. Peu lumineuses parce que ces jets de plasma n'émettent que dans des raies spectrales, ils n'émettent aucun continu. Contrairement à une étoile. Donc, il faut les observer dans des filtres bien précis et effectivement avec des CCD qui sont beaucoup plus sensibles que les plaques photo. On s'est mis à en trouver dans la plupart des étoiles jeunes, en fait. C'est un phénomène qui, lui aussi, était complètement inattendu. Alors, les gens s'attendaient plutôt à un vent large au départ. Quand ils ont vu les flots CO, ces cavités larges, ils se sont dit bah, « c'est un vent style... Les vents qu'on connaissait, les vents stellaires, ne sont pas très collimatés. Et puis en fait, on trouve ça. Donc, les gens étaient quand même assez très très surpris. Donc, des jets extrêmement fins, très collimatés, avec des nodules à l'intérieur qui sont causés par une variabilité temporelle, sont comme des bursts, des hoquets de l'étoile, qui créent donc des ondes de choc qu'on appelle des chocs d'étrave, un peu comme à l'avant d'un bateau. Quand une nouvelle éruption plus rapide rattrape du gaz plus lent. Et ici, je vous ai mis les trois phases évolutives dont vous a parlé Françoise, et de la classe 0, donc les plus jeunes proto-étoiles, où la masse de l'étoile est encore inférieure à la masse de l'enveloppe qui tombe dessus. Une classe 1 dans laquelle c'est la fin de la phase d'effondrement, la masse de l'étoile est devenue supérieure à la masse de l'enveloppe, on est sur la fin de l'enveloppe. Et ici, une classe 2, donc une étoile tétorie qui est vue par la tranche. On voit très bien le disque par la tranche en lumière diffusée. Les particules de poussière à la surface du disque reflètent la lumière et on voit le jet qui sort du centre du disque. Et vous voyez quand même, c'est assez semblable. En fait, si on modélise et qu'on compare l'espacement entre les nœuds, on retrouve des choses très similaires. Donc, c'est un ingrédient qui a l'air essentiel à la formation stellaire, en tout cas à l'accrétion de matière sur l'étoile. Quand on observe une classe 3, donc une étoile où le disque est dissipé ou bien n'accrète plus, il n'y a plus de jet non plus. Donc c'est vraiment lié à l'accrétion de matière sur l'étoile. Autre similarité, quand on regarde la collimation des jets, donc la largeur du jet en fonction de sa distance, là aussi, on ne voit pas de différence entre les classes 0, donc c'est ce qui est en rouge, orange, bleu, ce sont des classes 0, et en noir, ce sont des étoiles tétorie. Vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de différence, et que la collimation commence à toute petite échelle, c'est-à-dire que c'est à quelques unités astronomiques, déjà c'est collimaté. Et le fait que ça ne dépende pas de la classe évolutive, ça montre que l'enveloppe en effondrement n'est pas nécessaire pour collimater un jet. La collimation doit se passer de façon intrinsèque, même dans une classe 2, une étoile où il y a juste un disque. Il faut arriver à collimater ce jet sur une échelle de moins d'une unité astronomique, donc la partie la plus interne du disque. Donc c'est probablement une collimation magnétique. Donc on s'est mis à essayer de détecter le champ magnétique dans les jets, ce qui est très difficile, mais il y a eu plusieurs études qui confirment que ces jets sont magnétisés. Tout d'abord, l'étude des ondes de choc à l'intérieur des jets. Donc ici, c'est une vidéo qui vous montre, en fait, c'est la façon aussi de mesurer la vitesse du jet. On peut mesurer l'effet Doppler et on peut aussi le voir bouger dans le ciel tellement ils vont vite. Donc celui-là, il va à 300 km par seconde. Vous voyez trois époques différentes. Et on peut mesurer précisément la vitesse à laquelle se déplace chacun de ces petits nodules. On peut voir qu'ils n'ont pas tous la même vitesse. On peut en déduire la vitesse de choc entre les nodules. Et on peut comparer au modèle de choc. Et en fait, le champ magnétique, ça va limiter la compression dans le choc. Un champ magnétique va résister à la compression, ce qui fait que ça va augmenter l'épaisseur du choc et ça va modifier les intensités relatives de différentes raies spectrales aussi, par rapport à un modèle où il n'y a pas de champ magnétique. Et les résultats confirment qu'il y a effectivement un champ magnétique. On le mesure par ce qu'on appelle la vitesse d'Alven. On voit que c'est en gros 10% de la vitesse du jet, ce qui n'est pas négligeable. Et il y a eu récemment avec ALMA un autre type de mesure qui lui est basé sur la polarisation de la lumière émise par la molécule SiO. C'est un effet qui s'appelle Goldreich-Kilafis, qui est assez compliqué à expliquer, mais qui peut se passer quand il y a un champ magnétique qui agit sur la molécule. Et là aussi, on déduit une vitesse d'Alven qui est de l'ordre de 10% de la vitesse du jet, ce qui est assez important et qui confirme qu'on a affaire à une éjection magnétique. Enfin, on voit aussi une très forte corrélation entre le flux de masse qui part dans le jet, qu'on arrive à estimer à partir des raies spectrales, et le taux d'accrétion de matière sur l'étoile. Alors, comment est-ce qu'on mesure le taux d'accrétion de matière sur une étoile ? Ben, en fait, dans les étoiles Tétori, en tout cas, on s'est aperçu en modélisant leur spectre que le disque était tronqué à l'intérieur par la magnétosphère de l'étoile, qui est très magnétisée, et que la matière est conduite à travers ces lignes de champ magnétique pour tomber sur l'étoile. Ça produit un choc d'accrétion. Ce choc d'accrétion chauffe la matière énormément, qui rayonne dans des longueurs d'onde plus courtes. En particulier, ça fait un excès ultraviolet, ça fait aussi des raies d'émission bien particulières. Et en modélisant ça, on peut estimer le taux d'accrétion de matière sur l'étoile. Et on s'aperçoit que donc il y a une très grande variation de taux d'accrétion hein, suivant l'âge de l'étoile, suivant sa masse. Et il y a quand même une corrélation avec le flux de masse dans le jet qui est assez impressionnante sur 5 ordres de grandeur. Donc ça montre que c'est un processus universel d'éjection. Et à nouveau, pour avoir ce 10%, ça veut dire qu'il y a une conversion très efficace de l'énergie d'accrétion en énergie cinétique, donc à nouveau un processus magnétique. Donc les processus d'éjection magnétique, les modélisateurs et les théoriciens ne sont pas restés sans rien faire. Il y a effectivement un processus d'éjection qu'on appelle magnétocentrifuge très efficace qui a été développé en fait au départ pour les jets d'AGN. Donc les AGN, c'est les noyaux actifs de galaxies. C'est la partie au centre d'une galaxie quand il y a un trou noir supermassif. Il y a de la matière, il y a aussi un disque d'accrétion qui se forme avec la matière qui essaye de tomber sur le trou noir, mais qui, à cause du moment cinétique, toujours pareil, forme un disque. Et il y a aussi des jets de plasma qui repartent. Et pour expliquer la puissance de ces jets, donc il y a eu cette théorie qui a été développée, où on montre qu'on peut, en fait, grâce au champ magnétique, on peut donc imaginer les lignes de champ un peu comme un fil de torsion, c'est-à-dire qu'elles vont être tordues par la rotation dans le disque, et ensuite elles vont se détordre. Donc elles vont freiner la matière du disque, permettre l'accrétion, et en même temps, les forces magnétiques, le champ va se détordre et recommuniquer son moment cinétique à la matière. Et la matière, si on lui donne du moment cinétique, ben là, la force centrifuge va devenir suffisante pour la refaire partir. Donc une image qu'on prend souvent, c'est, vous imaginez un fil de fer et une perle, vous enfilez une perle sur un fil de fer et vous faites tourner ce fil de fer comme ça. Si vous l'inclinez suffisamment, la perle, elle va partir. Donc c'est ça l'idée, en fait, au-dessus d'un certain angle, spontanément, si vous avez un champ magnétique suffisamment fort pour entraîner la matière, vous allez pouvoir éjecter de la matière. Et en plus, ce qu'il a montré, c'est qu'à grande échelle, il y avait spontanément une recollimation des lignes de champ, ce qui pourrait expliquer la collimation des jets. Donc après, il y a deux variantes. Il y a un modèle analytique très simple où tout est éjecté à partir du bord interne du disque, vous savez, là où la magnétosphère tronque le disque. Et il y a, les simulations numériques suggèrent une situation plus compliquée avec plusieurs composantes, un vent stellaire déjà qui viendrait de l'étoile, un vent de disque mais qui pourrait venir d'une plage plus étendue, ça dépend des lignes de champ dans le disque, comment ça va décroître, et puis des éjections magnétosphériques ici qui correspondent à ces boucles magnétiques qui vont être distordues par la rotation et qui se reconnectent. Alors comment savoir d'où viennent les jets? Est-ce qu'on peut tester ce modèle? On peut le tester en faisant des hypothèses simplificatrices parce que dans un vent de disque MHD, donc magnéto-stationnaire et axisymétrique, il y a des quantités conservées et en fait on peut relier la vitesse poloïdale et le moment cinétique dont j'ai parlé tout à l'heure, on peut le relier au point de lancement, le R0 ici, et le lambda qui est une sorte de bras de levier qui mesure un peu la longueur de la tige dont je vous ai parlé tout à l'heure. Enfin, c'est le carré de la longueur de la tige d'ailleurs. Et on peut écrire ces relations dans un plan comme ça avec ce qu'on peut mesurer, la vitesse du jet, son moment cinétique spécifique. Et ici, on a des courbes pour différents rayons de lancement, différentes valeurs de lambda. Et donc, on a essayé pendant très longtemps de mesurer cette rotation des jets dans le domaine optique avec Hubble notamment. Et en fait, ils sont tellement fins qu'on n'y arrivait pas. Et puis, il faut aussi une résolution spectrale très bonne pour voir la vitesse de rotation. Et c'est qu'avec ALMA qu'on a obtenu une mesure vraiment crédible et fiable dans ce jet de proto-étoile, qui est une classe 0. Et on est dans cette zone, c'est-à-dire quelque chose qui est éjecté vraiment des parties du bord interne du disque, entre le bord interne et 0,2 AU, avec un bras de levier de quelques valeurs de 2 à 5 qui est assez typique des modèles. Et c'est donc on a enfin réussi à confirmer qu'effectivement ces jets viennent des parties les plus internes, ce qui est cohérent aussi avec le fait qu'ils sont assez faibles en poussière en fait. C'est une zone où la poussière est évaporée. On a aussi des indications qu'il y a une contribution magnétosphérique à ces éjections, et ça on le voit en absorption, dans les raies par exemple de H-alpha, on voit des signatures d'absorption en rouge et en bleu qui sont anticorrélées, et en fait ça pourrait correspondre à des événements de la magnétosphère qui s'enfle et qui se reconnecte. Passons maintenant aux vents de disque. Alors les vents de disque, c'est la chose la plus nouvelle et qui est encore la plus débattue, bien sûr. Donc là, on est à des vitesses intermédiaires entre les flocéo qui sont très lents, les jets qui sont très rapides. On a commencé à détecter ça du sol grâce à des spectro-imageurs sur des grands télescopes et aussi avec Hubble. On s'est aperçu dans les jets les plus brillants, en particulier celui-ci, c'est des jets TOA, c'est le jet de Tétori le plus brillant, on s'est aperçu qu'autour du jet, il y avait du gaz qui allait moins vite. Il y avait une sorte de cocon avec des vitesses intermédiaires, 50 à 100 km par seconde, et même des vitesses encore plus basses en hydrogène moléculaire. Et avec Hubble, ils ont mesuré, là pour le coup, comme c'était assez large, ils ont pu résoudre la rotation. Et si on applique la recette dont je vous ai parlé tout à l'heure, la méthode, on trouve un rayon d'éjection de 3 unités astronomiques. Donc là, on n'est plus au bord interne du disque, on serait vraiment dans le disque lui-même. Donc on aurait une structure comme ça en pelure d'oignon avec plusieurs, une éjection qui serait étalée sur une plage de rayons. Ça a été pendant longtemps le seul exemple, mais grâce à ALMA, récemment, d'abord avec Noema, puis avec ALMA, on s'est mis à détecter d'autres flots en rotation, comme ça, mais plutôt dans des sources plus enfouies, parce qu'on le fait en CO, en molécules donc, qui sont plus abondantes dans les objets plus jeunes, qui sont encore froids, dont l'environnement est encore très moléculaire. Et donc là, en couleur, vous avez aussi, oui, j'ai oublié de vous dire ici, je vous ai dit, c'est des signatures de rotation, je suis allée un peu vite, je pense. Donc en fait, en bleu et en rouge, c'est quand c'est décalé, donc vers le bleu et vers le rouge. Vous voyez que si un objet tourne, vous allez avoir le décalage Doppler. Donc si ici, cette partie va s'approcher de vous, par exemple, et cette partie va s'éloigner de vous. Donc si ça s'approche de vous, ça décale vers le bleu les fréquences par effet Doppler. Quand ça s'éloigne, ça se décale vers le rouge. Donc un côté du jet va être décalé vers le bleu, l'autre côté du jet va être décalé vers le rouge. Et c'est ça qu'on cherche à voir. Donc on compare les vitesses des deux côtés, et on regarde s'il y a un décalage systématique entre les deux. Donc là, c'est ce qu'ils ont fait, et dans l'image d'après, c'est carrément une carte des vitesses. Donc à chaque endroit, on mesure la vitesse, et vous voyez que là aussi, il y a des effets systématiques. On voit qu'il y a clairement un côté qui est bleu, un côté qui est rouge. Ici, on ne l'a pas montré parce que y a aussi le flot est aussi penché vers nous, donc c'est plus difficile de montrer la différence, mais on mesure aussi de la rotation. Et ce qui est frappant, c'est qu'à chaque fois, vous voyez que ce sont des choses qui émanent de l'intérieur du disque. Ici, j'ai représenté le disque en jaune. Ici, vous voyez le disque. Le disque aussi tourne. En bleu et en rouge, c'est le disque lui-même qui tourne. Et vous voyez que ça provient de l'intérieur du disque. Ici, pareil, on voit le disque. Ça provient de l'intérieur, à nouveau, de quelques unités astronomiques. Donc là, on s'est dit, bon, est-ce que, à nouveau, est-ce que ça peut être un vent de disque qui serait étendu? Ou alors, est-ce que ça pourrait être la photoévaporation de la surface du disque parce que on sait que si on irradie un disque, si l'étoile émet beaucoup de rayons X, d'UV, ça va chauffer la surface du disque, et si c'est suffisamment chaud, si la vitesse du son devient comparable à la vitesse de rotation, la vitesse keplérienne, on va dire, la matière va pouvoir partir. Donc ça peut se passer au-delà de quelques unités astronomiques. Alors, on a comparé, en fait, au vent de disque MHD, d'abord, toujours le même diagramme, cette fois je l'ai mis en log, parce qu'il y a trop d'objets dessus, on s'est rendu compte qu'on était pile dans le domaine attendu pour les vents de disque MHD, en fait. C'est-à-dire qu'on a des rayons de lancement de 0,5 à 40 unités astronomiques, on a des bras de levier qui correspondent à ce qu'on attend, en particulier dans cette zone qu'on appelle la zone morte. Alors, la zone morte du disque, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais en gros, les disques d'accrétion, pour accréter, pendant longtemps, les gens ont dit qu'il y aurait une instabilité magnétique dans le disque, pouvait faire l'accrétion, et effectivement, sans éjecter. C'est vrai, mais il faut que le gaz soit bien couplé au champ magnétique. Et en fait, il y a toute une zone du disque qui est trop loin de l'étoile pour être ionisée, en tout cas dans le plan médian, le rayonnement de l'étoile ne pénètre pas, et qui est trop épaisse aussi pour être ionisée par les rayons cosmiques qui viennent de l'extérieur. Donc à l'extérieur, les cosmiques, ça va, à l'intérieur, l'étoile ionise, mais entre les deux, on a cette zone morte. Il n'y a que la surface qui peut être ionisée par le rayonnement, mais pas le cœur du disque, et c'est là où la plupart de la masse se trouve. Donc, comment faire dans cette zone morte pour accréter quand même, faire que le disque accrète sur l'étoile, parce qu'on voit bien qu'il accrète, on mesure le taux d'accrétion là, mais... Donc les modèles ont montré que les vents magnétisés dans cette zone pouvaient effectivement extraire le moment cinétique avec ce bras de levier-là. Et ils prédisent des taux d'éjection qui sont du même ordre que le taux d'accrétion, et c'est ce qu'on observe dans les flots CO que je viens de vous montrer. Et par contre, ces flux de masse sont supérieurs à ce qui est prédit pour la photoévaporation. Donc ça, c'est quand même très évocateur de vents de disque MHD. Il y a quand même une question ouverte. Pourquoi est-ce que c'est si conique? Parce que normalement, les vents MHD, je vous ai dit que ça se recollimatait. Alors, ce qu'on suppose, c'est qu'il y a peut-être en fait une interaction entre le jet central et le vent qu'il y a autour. Le jet, lui, comme je vous ai dit, il est variable. Vous avez vu, il y a des chocs internes, il y a même des chocs d'étrave. Ces chocs d'étrave pourraient interagir avec le vent qu'il y a autour. Et les modèles qu'on a faits jusqu'à maintenant, un peu simplifiés, montrent qu'on pourrait peut-être avoir une forme conique. Ça marche aussi pour l'interaction d'un vent X. Autre chose qui a l'air d'aller en faveur d'un vent MHD, c'est la comparaison vraiment détaillée dans un objet qui a été faite avec un vrai modèle complet, donc pas juste mesurer la rotation, le VP, mettre dans ce diagramme, mais vraiment regarder est-ce que toute la cinématique et toute la morphologie peuvent coller. Et dans ce cas, les deux collent bien, les lignes d'écoulement en noir ici reproduisent bien la géométrie qu'on observe. La vitesse, les signatures de rotation, c'est-à-dire la vitesse en fonction de l'écart à l'axe, marchent bien aussi. Dans les étoiles Tétori, comme je vous ai dit, c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas le CO, il y a Dégéto A qui était un peu le seul, où on avait, donc c'est celui-là, où on avait vu la rotation, c'était cette composante rouge, mais en fait, récemment aussi, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits dans la résolution spectrale dans l'optique. C'est-à-dire là où on observe les étoiles tétoriques qui sont visibles dans l'optique. On est arrivé à des résolutions spectrales de 3 km par seconde qui s'approchent de ce qu'on peut faire avec, avec ALMA, pas aussi bien, mais qui deviennent bonnes, et qui ont révélé qu'en fait, il y avait des composantes à basse vitesse dans la plupart de ces sources, des tétories. Et est-ce que ça pourrait être aussi un vent de disque? La largeur de ces composantes a l'air d'augmenter avec l'inclinaison, et si c'est dominé par la rotation, on trouve des rayons d'éjection 0,02 à 5 unités astronomiques qui sont assez similaires à ce qu'on a trouvé en CO. Et dernièrement, on a confirmé que c'était bien de l'éjection parce qu'on voit une extension dans la direction du G dans un objet, et surtout cette image HST, GWST d'un disque vu par la tranche, où vous voyez ici une structure en X qui est rouge, qui suggère elle aussi qu'il y a de la matière qui part. Alors, quel serait l'impact sur la formation planétaire? Donc, l'impact sur la formation planétaire, oui, c'est un des impacts importants de ce... Si c'est des vents de disque MHD, on peut se dire, bon, ok, est-ce que c'est vraiment une question si importante? C'est une question importante parce que si les disques hébergent un champ magnétique, j'ai oublié de le dire, mais il faut un champ magnétique quand même vertical qui traverse le disque, il ne faut pas un champ magnétique complètement chaotique. Les simulations numériques montrent que ça fait spontanément apparaître dans le disque des anneaux et des sillons par instabilité magnétique. Donc ça, c'est une image synthétisée à partir d'une simulation numérique de disque avec un champ magnétique qui éjecte. Et vous voyez, en noir, ce sont des sillons, en rouge, ce sont des surdensités. Et ce type d'anneau donc, pourrait favoriser, ça a tendance à piéger les gros grains de poussière, et ça pourrait donc favoriser la croissance des poussières, la formation des planétésimaux, qui sont les premières briques de base de la formation des planètes. Et en fait, Françoise vous a montré ces images de disques, on les voit, ces anneaux, dans beaucoup de disques, avec ALMA. De très très nombreux disques de tétories montrent ces anneaux, et pour l'instant, on n'a pas encore trouvé les planètes qui vont avec. C'est-à-dire que les gens les cherchent, mais on ne les voit pas. Il y a un seul objet dans lequel on a trouvé les planètes pour l'instant. Donc, est-ce que ces anneaux pourraient en fait être dus plutôt à ces instabilités et être encore en train, ou plutôt au début de la formation des planétésimaux? C'est une question très importante, et c'est pour ça que c'est très important de savoir si ces disques sont magnétisés ou pas, pour pouvoir interpréter de telles observations. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'en est pas sûr? Parce qu'il y a quand même une autre possibilité qui n'est pas complètement écartée, c'est que ce qu'on voit soit de l'entraînement, toujours de l'entraînement par le G ou par le vent X, suivant ce qu'on croit. Parce que dans les objets où on voit ces vents en rotation, il y a quand même de la matière résiduelle qui tombe sur le disque. Donc, comme dans les flots à grande échelle, est-ce que par hasard on ne pourrait pas entraîner le jet ou le vent pourrait pas entraîner aussi un peu de cette enveloppe et faire quelque chose qui ressemble à ces vents de disque? Alors, il y a eu des modèles qui ont été faits pour un entraînement par un vent large, et qui sont comparés ici avec un des objets en rotation que je vous ai montré. Et ici, c'est la rotation observée en fonction de la distance. Quand on monte ici en altitude, comment la vitesse décroît? Et ça, c'est ce que prédit le modèle. Donc on voit que, en tout cas, ce modèle-là ne marche pas, ne prédit pas assez de rotation par rapport à ce qui est observé. Après, c'est un modèle assez simple d'effondrement avec rotation qui est très idéalisé. Il faut aussi qu'on fasse la même chose avec un entraînement par un jet qui fonctionne un peu différemment, donc, puisque là, ce sont des chocs d'étrave. Pareil, il faut aussi tester ça et tester aussi avec des modèles d'enveloppe en rotation plus réalistes que ce qu'on a utilisé jusqu'à maintenant. Mais pour l'instant, on pense que ça risque d'être difficile à expliquer autrement. Donc, est-ce qu'on pourrait se dire, on pourrait aussi tester ça en mesurant directement la magnétisation du disque? Pourquoi pas? ALMA a été construit avec, entre autres, cet objectif, et il est équipé de polarimètres dans cet objectif, essayer de mesurer le champ magnétique. Donc les simulations qui sont faites en MHD non idéal, comme celle de Patrick Hennebelle, prédisent qu'au début, en tout cas, le champ magnétique dans le disque devrait être de l'ordre de 100 mégauss. Et ensuite, récemment, dans une météorite très ancienne, on a détecté un champ magnétique qui montre qu'il y avait effectivement un champ magnétique primordial, donc une chondrite carbonée qui devait avoir pas loin de 4,5 milliards d'années. Mais on n'a pas encore de détection directe dans un disque, que ce soit de classe 0, classe 1, classe 2, on n'a pas, parce que c'est extrêmement difficile. Et en fait, on s'est rendu compte que les signatures de polarisation qu'on observait, elles étaient soit dominées par la diffusion par les grains dans le disque, qui sont en fait assez gros, donc même dans le millimétrique, ils diffusent encore, soit par un mécanisme d'alignement qui n'est pas dû au champ magnétique, qui n'est plus le même que dans le milieu interstellaire, qu'un mécanisme d'alignement par le rayonnement. En tout cas, le pattern de polarisation qu'on voit ne correspond pas du tout à ce qui peut être fait par un champ magnétique. Donc pour l'instant, on est un peu coincé, on essaye d'utiliser ce qu'on appelle l'effet Zeeman, mais qui est un effet très, très difficile à mesurer. Et donc il y a beaucoup d'efforts qui sont mis là-dedans. J'espère qu'on va pouvoir bientôt y arriver. Et il y a une question qui est en suspens aussi, c'est bien sûr comment ce flux magnétique, est-ce qu'on va arriver à le garder dans le disque? C'est-à-dire qu'au début, par l'effondrement, vous imaginez bien qu'on va ramener du champ magnétique, même si on perd du flux parce que l'effondrement, le couplage entre le gaz et le champ magnétique n'est pas parfait. Le gaz est quand même faiblement ionisé, donc il y a de la perte de flux, mais on en garde quand même. Mais est-ce qu'au cours du temps, jusqu'à plusieurs millions d'années, parce qu'il faut quand même expliquer aussi les étoiles Tétori et l'accrétion dans les étoiles Tétori, est-ce qu'on peut garder ce champ magnétique pendant des millions d'années? Et donc ça, c'est une question aussi très ouverte, parce qu'en fait, la diffusion du flux dépend de choses très subtiles comme la loi de densité dans le disque, qu'on connaît très mal en fait, les masses de disque, la conversion d'observation en masse de disque est quand même toujours assez difficile. Voilà, donc je ne sais pas combien de temps il me reste, mais...
Un quart d'heure.
Un quart d'heure? Ah, mais j'ai déjà fini, mais je vais pouvoir prendre plein de questions. Donc, les conclusions, c'est que le processus d'éjection joue un rôle fondamental dans la formation stellaire. Les flots bipolaires, comme je vous ai montré, peuvent réguler la masse et le nombre d'étoiles formées à l'échelle des amas, qui sont là où la plupart des étoiles se forment. Et les jets rapides, eux, peuvent provenir de la... On sait maintenant qu'ils proviennent de la zone d'interaction étoile-disque ou très près de cette zone. Et donc, ils sont sans doute cruciaux pour le freinage de l'étoile. Pour aider la matière à tomber sur l'étoile, il faut aussi prélever du moment cinétique, toujours pareil. Et en plus, on s'aperçoit que les étoiles Tétori, elles tournent moins vite que ce au quoi on s'attendrait si elles sont en train d'accréter de la matière. Au bord interne du disque, la vitesse de rotation, c'est la vitesse de Kepler. Et l'étoile, elle tourne à une fraction de la vitesse de Kepler. Elle tourne 10% de la vitesse de Kepler. Donc, comment se fait-il que des étoiles qui accrètent de la matière, qui ont une rotation aussi rapide, tournent si peu rapidement elles-mêmes? Et très probablement, c'est donc ce mécanisme d'éjection magnétique qui fait ça. Et pour l'instant, on n'a pas encore complètement tout résolu. Même avec les simulations actuelles, on n'arrive pas encore à freiner suffisamment les étoiles qui accrètent à des taux élevés. On a découvert à vitesse intermédiaire des vents moléculaires en rotation qui sont visiblement issus du disque lui-même et qui seraient peut-être des vents MHD du même type que ceux qui ont été invoqués dans les noyaux actifs de galaxies autour des trous noirs, qui permettraient à accréter à travers le disque, en particulier dans cette zone morte où les autres processus de turbulence qui étaient invoqués jusqu'à maintenant ne marchent pas. Et comment on va pouvoir tester ce nouveau paradigme? Eh bien, en fait, il va nous falloir des modèles plus détaillés. Il va falloir vraiment traiter l'interaction entre le jet, le vent, vous avez vu, pour expliquer ces formes coniques, avec l'enveloppe aussi, pour voir s'il y a une composante d'entraînement. et aussi mieux comprendre comment le champ magnétique pourrait diffuser à travers le disque entre les premières phases et les phases qu'on observe. Et puis le James Webb va aussi être un outil crucial pour avancer dans tout ce domaine, parce qu'il trace du gaz à température intermédiaire entre le G, qui est plutôt à 10 000 degrés, et le flot CO, qui est à 10-30 degrés. Et même le vent de disque, d'ailleurs, n'est pas très chaud non plus. Donc le régime infrarouge du James Webb trace en fait des températures intermédiaires de l'ordre de quelques milliers de degrés. Et je vous montre ici un exemple de données sur lesquelles nous sommes en train de travailler, où on voit juste de l'émission en hydrogène moléculaire qui est emboîtée à l'intérieur du vent CO en rotation. Donc on voit encore, toujours pareil, une structure en pelure d'oignon. C'est du H2 à 2000 degrés et maintenant ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est est-ce que c'est un vent MHD qui serait chauffé donc par des thermes de chauffage MHD. On s'attend à ce qu'il y ait de la dérive entre les ions et les neutres par exemple. Si c'est un vent MHD, les ions vont suivre le champ magnétique, les neutres vont suivre uniquement grâce aux collisions des ions, donc il va y avoir une friction, il va y avoir un chauffage. Est-ce que c'est du chauffage par irradiation? Est-ce que c'est du chauffage par des chocs, s'il y a de l'entraînement? Voilà, donc les prochains épisodes, et je vous laisse avec cette belle image, et je vous remercie.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.